That's who we are. Yeah, check it out. We just chillin', you know what I'm saying? Yo, Imani, what station are we on? CKUT 90.3 FM. Cooler.
Hi, I'm Andre Goulet. You're listening to Harbinger Showcase. Harbinger Showcase is a weekly podcast syndicated to community and campus radio, including Toronto CIUT, Winnipeg CKUW, Montreal CKUT, and Vancouver Co-op Radio, and featuring highlights from the country's favorite progressive podcast community. Since launching in 2020, the Harbinger Media Network has become Canada's number one listener-supported nonprofit podcast network, featuring more than 60 shows exploring politics, society, and culture from a progressive perspective. Support the community for just $5 a month and get a new release from Between the Lines or Firmwood Publishing at harbingermedianetwork.com. On this episode, we're going to begin with something kind of special. We're celebrating the release of Big Shiny Takes and the Forgotten Corner co-host Jeremy Appel's first book, Kennyism, Jason Kenney's Pursuit of Power, out now from Dundurn Press. So let's go way back to August 2019 at the Calgary Petroleum Club, where representatives from Birchcliff Energy and Tourmaline Oil presented a remarkable piece of petro-propaganda to the Canadian Association of Petroleum Producers, which was instantly retweeted by then-Premier Jason Kenney, stating, "Enough is enough. No more apologies. We're proud of Alberta and Canada's oil and gas." And on this now classic archived episode of the Alberta Advantage podcast, join the team as they watch and analyze this crypto-fascist piece of media. Now, here's the show.
Not only do we have to kiss the ring of oil and gas, but we have to like it.
Makes no difference where I go. You're the best hometown.
Bonsoir tout le monde. C'est le début d'une nouvelle émission. C'est le Soul Leader Podcast qui débute en ce moment sur les ondes de CKUT 90.3 FM. C'est moi, Jean-Philippe Vézina, aka DJ Mauvaise, qui va être votre hôte, votre DJ et votre MC pour la prochaine heure. Le Soul Leader Podcast, une émission où les voyages à travers le monde, à travers la musique, vont côtoyer le développement personnel, le marketing et l'entrepreneuriat. Une occasion de faire des voyages musicaux avec vous, de vous faire découvrir toute la richesse des cultures afrodescendantes francophones, donc du continent africain, des Antilles et des Amériques, à travers des entrevues, des chroniques et des occasions de faire découvrir des hommes et des femmes afrodescendantes francophones qui changent leur communauté, des artistes, des influenceurs et des entrepreneurs. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au programme pour l'émission en ce mercredi 7 février 2024? Eh bien, on a bien sûr notre chronique musicale, notre voyage musical où ce soir, nous allons faire un voyage pour découvrir la musique de l'île de la Réunion. Ensuite, on va avoir aussi la chronique coaching. On va parler de l'importance des anciens dans la transmission du savoir, entre autres. On a une entrevue que j'ai réalisée avec Ajmal Adjassa, qui est direct de Cotonou au Bénin, une entrevue que j'ai réalisée plus tôt cette semaine que je vais vous présenter en milieu d'émission. On va parler aussi d'événements dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs 2024. Donc voilà, c'est ce qui vous attend, c'est le moment qu'on va passer ensemble pour les prochaines minutes, la prochaine heure. Je rappelle que vous êtes sur les ondes de CKUT 90.3 FM. C'est le Soul Leader Podcast avec moi-même, Jean-Philippe Vézina, aka DJ Mauvaise. On va continuer en musique avec un morceau du groupe Voilà. On vous l'avait dit, ça s'en vient tout de suite dans quelques minutes. À très bientôt.
n'écoutes pas ce que ton père te dit, non. Tu n'écoutes pas ce que ta mère te dit, non. Tu n'écoutes pas ce que je te dis, non. Tu n'écoutes pas ce que les gens te disent, non. Tu dis tu sais pas, mais on te l'avait dit. Tu dis tu crois pas, mais on te l'avait dit. Tu n'entends pas, mais on te l'avait dit. Tu n'écoutes pas, mais on te l'avait dit. Et toi tu ne cesses de chercher les embrouilles. Tu traînes la nuit avec tous ces brigands. Et au matin il te manque une dent. La vie de malfrat,
on te l'avait dit.
C'est pas fait pour toi,
on te l'avait dit.
Mais tu n'écoutes pas,
on te l'avait dit.
Et c'est bien fait pour toi,
on te l'avait dit.
Que même le piment. J'ai le ventre vide, même pas un franc. Avec tes dents aiguisées comme le caïman. Mon petit, tu me ruines tout ce que j'ai, tu me prends. Le manioc est pourri.
Et on te l'avait dit.
La bouche là est moisie.
Et on te l'avait dit.
L'estomac réagit.
Et on te l'avait dit.
T'en as pour toute la nuit.
Et on te l'avait dit.
Et personne ne sait ce qu'on va faire de toi. Écoute ton papa,
on te l'avait dit.
Il sait, tu sais pas,
on te l'avait dit.
Le vieux sera ça,
on te l'avait dit.
T'éviter le faux pas,
on te l'avait dit.
De subir la morale des anciens. Mais au fond de toi, tu sais qu'ils te veulent du bien. Toujours le même refrain, la même rengaine. Et profite avant que le bon Dieu ne les prenne. Mais le jour viendra,
on te l'avait dit.
Toi aussi tu feras,
on te l'avait dit.
La morale du papa,
on te l'avait dit.
Et on t'écoutera pas,
on te l'avait dit.
Alors, toujours sur les ondes de CKUT 90.3 FM avec Jean-Philippe Bézina, c'est le Soul Leader Podcast jusqu'à 20h ce soir, en ce mercredi 7 février. Juste avant, après l'introduction de l'émission, on a écouté un morceau, une pièce de l'album qui s'intitule « Voilà ». Le morceau en tant que tel, lui, il s'intitulait « On te l'avait dit ». Il est interprété par Pat Kala, un Lyonnais. Pat Kala, c'est un musicien, c'est un chanteur, c'est un conteur de son vrai prénom Patrice, en hommage au grand Patrice Lumumba. Et il fait hommage à travers son art en tant que musicien, chanteur et conteur à la culture africaine. Il habite à Lyon, c'est un Lyonnais, et son père, il est Sawa, donc du peuple Makossa. Le montage sonore de l'œuvre, elle est la réalisation du français Bruno Patchwork Ovart. Et ben voilà, c'est un excellent album que j'apprécie beaucoup, qui se penche entre autres vers une tendance vers l'afro-disco. Donc avec plusieurs titres bien groovy qui nous ramènent dans les années 70 et les années 80. Et j'ai choisi justement ce morceau qui s'appelle « On te l'avait dit ». Pour parler de ma prochaine chronique qui parle justement l'importance des anciens, de nos aînés. Je vais vous réciter un petit extrait du morceau qu'on vient tout juste d'écouter, justement, de l'album « Voilà ». C'est pas drôle de subir la morale des anciens, mais au fond de toi, tu sais qu'ils te veulent du bien. Toujours le même refrain, la même rengaine. Et profite avant que le bon Dieu ne les prenne. Mais le jour viendra... On te l'avait dit, toi aussi tu feras, on te l'avait dit, la morale du papa, on te l'avait dit, et peut-être qu'on ne t'écoutera pas. Moi, j'aime beaucoup le sens de ce refrain, il représente l'importance justement des anciens dans nos vies, dans nos traditions. Je suis moi-même père de famille, père de 3 enfants, et j'ai eu moi-même des parents, j'étais enfant. J'ai eu des gens qui m'ont fait la leçon plus jeune, qui m'ont aussi transmis leur sagesse, parce que pour beaucoup, je les ai bien écoutés, justement. Mais aujourd'hui, je me retrouve dans ce nouveau rôle en tant que père. Puis c'est un rôle que je souhaite faire grandir au fur et à mesure que la sagesse évoluera au sein de moi. Et de pouvoir moi aussi transmettre mes connaissances et ma sagesse aux prochaines générations. C'est un peu un des objectifs avec un projet comme le Soul Leader Podcast. J'aimerais vous, pour bien souligner tout ça, une petite citation, c'est un proverbe africain. Le vieux sage dit « L'homme jeune marche plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît la route ». C'est un proverbe africain. Donc, sur le continent africain, puis encore dans beaucoup de sociétés, les anciens, eh bien, ils incarnent la sagesse. Ils représentent, dans plusieurs spiritualités, les ancêtres sur Terre pour la transmission, entre autres, des valeurs qui occupent ainsi une place vraiment incontournable dans la marche des affaires, de la communauté. Les personnes qui, un peu comme on l'explique la citation que je viens de vous faire, les personnes qui avant toi ont accompli ce que tu veux réaliser et peuvent définitivement te servir de modèle et d'inspiration et d'apprentissage. En partageant justement leurs expériences de vie, ils nous permettent d'avancer plus rapidement en évitant certains pièges puis certaines erreurs, puis en prenant le temps d'observer puis d'analyser leur parcours, toi aussi, tu pourras cibler puis acquérir les comportements puis les attitudes de réussite qui ont fait leur succès. Donc, ce sont des conseils de sagesse, des mots sages qui peuvent te servir autant dans ta vie professionnelle, par rapport à un métier, par rapport à un art. Si tu es entrepreneur, le fait de pouvoir avoir des modèles sur lesquels tu peux te fier, ce sont toujours des façons d'accélérer tes progrès, d'accélérer tes succès. Les modèles puis les mentors, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils inspirent un sentiment de possibilité. Donc, on se dit, en fait, si il ou si elle peut le faire, c'est possible aussi pour moi. Et ce sentiment de possibilité, c'est un ingrédient émotionnel essentiel au maintien de la motivation dans le projet, la cause, l'organisation qui te tient à cœur et qui te motive. Donc, tout en restant d'une certaine façon maître de son apprentissage, ben, identifier des nouveaux modèles à suivre, qu'ils soient même jeunes ou vieux, mais c'est assurément un accélérateur de succès. Donc, c'est ma petite chronique, mon petit conseil du jour en tant que coach que je voulais vous partager aujourd'hui pour l'émission. Alors, on va passer à la prochaine section de l'émission et cette fois-ci, mais on va s'en aller notre voyage musical hebdomadaire qu'on fait à chaque émission. Puis, on va commencer tout de suite. Je vais mettre un petit peu la musique, justement, d'introduction de cette partie de l'émission. Et on va commencer notre voyage musical pour la soirée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un voyage musical vers le sud-est du continent africain. On s'en va à l'île de la Réunion. L'île de la Réunion qui est située, en fait, c'est un département français qui est situé dans l'océan Indien, donc entre mi-chemin, justement, entre la corne sud-est du continent africain, juste un peu plus à l'est encore que l'île de Madagascar. Donc, il y a deux îles encore plus petites qui appartiennent au territoire français. On a l'île Maurice et l'île de la Réunion. Et si on continue encore plus loin, on se retrouverait justement en Inde. Et c'est une île qui est réputée, si on parle de paysage, pour ses montagnes volcaniques, recouvert de forêts tropicales, pour ses récifs et ses plages. C'est un site aussi emblématique avec ce qu'on appelle le Piton de la Fournaise, qui est un volcan qui est actif, puis qu'on peut gravir, puis qui s'élève à près de 2650 mètres d'altitude. Mais plus précisément par rapport à notre voyage musical, ce que je vais vous parler, c'est du Maloya. Donc, Maloya, c'est inscrit comme chose à noter depuis 2009 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Donc, le Maloya, c'est à la fois une forme de musique, c'est un chant, c'est une danse qui est propre à l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, c'est une île qui est très métissée quand on regarde la population. Donc, il y a bien sûr, vu que c'est un département français, on a une présence qui ne sont pas des expatriés, ce sont des Français qui sont sur l'île de la Réunion. On a aussi l'histoire, le bagage des populations malgaches, d'origine malgache et d'origine africaine. Et le Maloya, donc métissé dès l'origine, le Maloya a été créé par les esclaves d'origine justement malgache et africaine dans les plantations sucrières avant de s'étendre à toute la population de l'île. Donc on retrouve des gens de toutes les teintes de peau maintenant à l'île de la Réunion. Donc en termes de petite histoire, le Maloya, c'était jadis un dialogue entre un soliste et un chœur accompagné de percussions. Donc, le Maloya prend aujourd'hui des formes bien plus variées au niveau des textes, au niveau des instruments, au niveau des ambiances sonores, mais toujours avec une racine qu'on reconnaît bien par le type de rythme. C'est chanté, c'est dansé sur scène par des artistes, puis du métis aujourd'hui avec des tendances à travers le rock, à travers le reggae, à travers le jazz, à travers la poésie, le slam, etc., où on retrouve justement les racines du Maloya. Donc, Otofra, c'était vraiment dédié au culte des ancêtres dans un cadre rituel. Puis le Maloya est éventuellement devenu peu à peu plus un chant de revendication pour les esclaves. Puis depuis depuis les dernières décennies, mais c'est une musique qui est vraiment représentative de l'identité réunionnaise. Donc, maintenant, on pourrait même dire que la grande majorité des manifestations culturelles, politiques et sociales sur l'île sont accompagnées de ces rythmes, le Maloya, qui est vraiment le vecteur de toute revendication et aussi de célébration. Il y a plein d'artistes maintenant qui s'associent aux traditions, à la culture, à la musique, au rythme Maloya. Puis c'est vraiment un facteur d'identité nationale très fort chez les réunionnais. Et ben justement, pour l'émission d'aujourd'hui, on va faire un voyage à travers le Maloya, à travers la musique et les rythmes de l'île de la Réunion. On va écouter un peu les différents styles, avec des styles qui sont plus anciens, qui vont dater à ce moment-là plus de la fin des années 70. On va écouter des rythmes vraiment très traditionnels, avec, comme j'expliquais, un chœur qui répond à un chanteur ou un poète, accompagné de percussions, tout simplement. Puis on va voir aussi où c'est en allé le rythme Maloya avec les autres influences qui en fait une musique très agréable et très rythmée. Donc, c'est ce qui s'en vient pour les prochaines minutes. Je vous rappelle, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, que vous écoutez le Soul Leader Podcast sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Et ben, on va commencer dès maintenant avec nos premiers morceaux, nos premières chansons. Le premier titre qu'on va écouter, ça s'appelle « C'est la même cadence » de Gabby et les Soulmen. Ça va être suivi de plusieurs autres artistes. Je vous fais un petit pot-pourri, donc c'est à écouter, ça s'en vient sur le Soul Leader Podcast avec moi-même, Jean-Philippe Vézina, aka DJ Mauvaise. Alors on est parti, on continue en musique.
jolie fille. Dans le pays bourbon, je toutes les gentilles. Quand hier samedi, je tisse à danser. Et tard dans la nuit, je tire de mailler.
Fais rouler mon gâté, ça t'a fait, il s'est fait. Fais rouler mon gâté, ça t'a fait, il s'est fait.
Toujours sur les ondes de CKUT 90.3 FM. C'est le Soul Leader Podcast avec moi-même Jean-Philippe Vézina, aka DJ Mauvaise. On vient de faire notre voyage musical justement sur l'île de la Réunion avec quelques artistes intéressants qui permettent justement de faire un parcours à travers les rythmes de la Maloya. Alors, on a entendu différents artistes qui ont défilé au cours des dernières minutes. Et maintenant, pour la suite de l'émission, c'est le moment où on va faire notre entrevue de la semaine. Donc, j'ai eu l'occasion de faire une entrevue avec un entrepreneur, un jeune homme très, très inspirant. Il s'appelle Ajmal Adjassa. Et c'est une entrevue que j'ai réalisée il y a quelques jours avec lui et on va en écouter aujourd'hui un extrait. Et si vous êtes curieux, si vous aimez ce que vous avez, vous allez entendre dans les prochaines minutes, je vais vous inviter aussi à écouter l'intégrale de l'émission sur la plateforme ecomastermind.com qui va être disponible dès vendredi prochain, l'intégrale de l'entrevue. Alors pour ce soir, pour maintenant en fait, on va en écouter un extrait. Donc je vous laisse avec ça. Je vous rappelle que vous écoutez le Soul Leader Podcast sur les ondes de CKUT 90.3 FM. On continue.
Bonsoir tout le monde. Je vous rappelle que vous êtes sur les ondes de CKUT 90.3 FM. C'est le Soul Leader Podcast avec moi-même Jean-Philippe Vézina, aka DJ Mauvaise. Aujourd'hui, pour cette portion d'émission, la portion chronique et entrevue, j'ai un invité qui nous vient du continent africain. Il est avec nous pour une entrevue que j'ai réalisée il y a quelques jours qu'on va pouvoir ensemble écouter. Je vais vous présenter Ajmal Adjassa. Il est spécialiste en neuromarketing, passionné de la vente et aussi de psychologie, deux passions qu'il a réunies dans son travail. Et vient aujourd'hui nous parler de son parcours personnel en tant qu'entrepreneur et aussi de ses ambitions, de sa vision pour le développement de l'écosystème entrepreneurial sur le continent africain et sa vision plus large à propos de l'avenir de l'Afrique. Ajmal, bonsoir et bienvenue parmi nous sur les ondes de CK.
Bonsoir, Jean-Philippe.
Alors, j'espère que tu vas bien.
Je vais très bien, merci. J'espère que toi aussi tu vas bien.
Ça va très, très bien. Je suis très content de passer ce moment avec toi et surtout de pouvoir partager avec nos auditeurs ton histoire qui est très intéressante, puis surtout une de tes spécialités, le neuromarketing, que j'aimerais bien pouvoir démystifier avec les gens qui nous écoutent ce soir pour en apprendre davantage, puis bien sûr découvrir ta perspective sur ce sujet, puis comment tu l'utilises pour accompagner des entrepreneurs, des leaders qui veulent faire connaître leurs projets, leurs services, leurs produits à davantage de clients. Donc, un grand plaisir. Donc, pour débuter l'entrevue, ma première question que je voulais te poser, c'est d'abord savoir comment en es-tu arrivé dans la vie à t'intéresser à l'entrepreneuriat, puis par la suite, au neuromarketing. Peut-être tu pourrais commencer par nous expliquer d'où tu nous parles aujourd'hui, en ce moment, puis parle un petit peu sur ça, de ton parcours personnel.
Ok, super. Merci Jean-Philippe. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci aux auditeurs du moins. C'est un plaisir d'être là, de parler de moi, de parler surtout d'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est vraiment un sujet d'intérêt public. Et aujourd'hui, Ajmal Adjassa, qui il est? C'est un jeune africain qui a vécu, je vais dire, toute sa jeunesse dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, qui est le Bénin, d'où je suis présentement, d'où je suis à l'instant où je parle avec vous. Et qu'est-ce qui m'a motivé à aller vers le neuromarketing, à aller vers l'entrepreneuriat? Je pense que ça va être vraiment, je dirais, quelque chose d'inné. Okay, je suis rentré dans le commerce familial depuis tout petit, depuis l'âge de 10 ans déjà. J'étais déjà dans le commerce familial, j'allais au marché pour ma maman, j'allais au marché avec mes sœurs et je gérais déjà des centaines de mille, des dizaines de clients, des centaines de clients par jour. Et cet esprit m'a déjà, je vais dire, formaté, okay, dans le mode entrepreneurial. Et aujourd'hui, c'est devenu tout naturel quand, après mes études universitaires et après mes propres expériences professionnelles, de me focaliser sur l'entrepreneuriat parce que j'ai vu tout ce que ça m'a apporté tout jeune en termes d'expérience, en termes d'expertise, en termes de, je vais dire, de notions de vie. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais à travers mon entreprise et à travers le partage que je fais dans mon quotidien, dans ce que j'apprends aux entrepreneurs ou dans ce que je fais avec tous ceux qui apprennent des compétences pratiques dans le neuromarketing avec moi et avec mon entreprise. Donc pour moi, c'est vraiment comme si j'étais né dans l'entrepreneuriat, tu vois. Donc du coup, je ne pouvais pas avoir d'autre issue que de faire de l'entrepreneuriat. Donc pour moi, c'est ce que c'est Ajmal Adjassa aujourd'hui. Et en tant qu'entrepreneur qui est en plus spécialisé dans le marketing, je suis comme un poisson dans l'eau, quoi.
Super. Donc, on reviendra un peu plus tard pour vraiment avoir une meilleure idée de ce que c'est le neuromarketing. Mais tu me parlais un peu de ton enfance, du fait que tu as grandi dans l'environnement du commerce depuis tout jeune. Et tu nous parlais de ta mère, justement. Donc, quel genre de commerce ta famille faisait-elle lorsque tu étais tout jeune?
OK, super. Déjà, ma mère, elle était une touche à tout, hein. Une superbe businesswoman, comme on le dit en Afrique. Je l'ai connue avec plusieurs produits. Je me rappelle, quand j'étais en sixième, j'allais au marché, on vendait des glacières et des plastiques. Les glacières, je pense qu'ils doivent connaître ce qu'on appelle des glacières, ceux qui nous suivent. Des glacières, il y avait des glacières en aluminium. C'était en réalité ces glacières qu'on vendait ici on les appelait les Haoussa, ces personnes, ces vendeurs ambulants, prenaient ces glaciers et maintenant marchaient dans la rue et allaient vendre ça aux populations. Donc je les connais avec les glaciers et les plastiques. Après, elle est rentrée dans les divers. J'ai vendu des biscuits, des bonbons, en gros et en détail. Après, on est rentré dans les produits de consommation de tous les jours. On a vendu des moustiquaires, des produits simples qu'on utilisait à la maison, des produits, des ingrédients qu'on pouvait utiliser, des tomates en boîte, tout ce qui avait rapport au fait à la vie au fait, active humaine. Donc, je n'arrive même pas à me rappeler de quels produits on n'a pas vendu parce que lorsque décembre arrivait, on vendait aussi des jouets pour enfants. Donc, c'était une businesswoman dans tous les sens du terme. Elle faisait tout. Donc, pour moi, plus jeune, j'ai presque vendu tout ce que je pouvais vendre en tant qu'entrepreneur en griffe. Elle vendait tout, pratiquement tout. Je n'ai pas souvenance d'une chose. Bon, peut-être elle ne vendait pas à manger, elle ne vendait pas certains, elle n'était pas dans la préparation directe, mais tout ce qui était produit de consommation divers, on les appelait des divers chez nous. Mm-hmm. Les divers, c'est tous les produits qu'on peut utiliser au quotidien, que ce soit dans la préparation, la cuisine ou dans la vie active. On vendait également les ustensiles de cuisine, tu vois, on vendait également les ustensiles de cuisine. Donc, c'était vraiment presque tous les types de produits. Mais après, à un certain moment, elle s'est beaucoup plus focalisée sur les bonbons, les biscuits, tout ce qui avait rapport aux sucreries, je vais dire aux sucreries pour adultes et enfants. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas très répandu. Et elle allait au Nigeria en prendre, parfois au Ghana, parfois à Lomé. C'était les pays qui fabriquaient ces produits. Donc ça aussi m'a permis de faire quelques petits voyages. Par moment, on me gardait pour aller au Nigeria, on m'emmenait à Lomé, on m'emmenait au Ghana pour payer tous ces produits et revenir avec. Donc pour moi, c'était vraiment ces produits qui m'ont bercé plus jeune.
Super. Et si tu pouvais peut-être te rappeler quels grands apprentissages, quelles grandes leçons cette période de ta vie t'a donné puis que tu peux encore aujourd'hui utiliser, lesquelles ce serait?
Ok, je vais dire trois grandes leçons.
Okay. Vas-y, je t'écoute.
La première grande leçon, ça peut être une leçon que beaucoup de gens ne comprennent pas parce qu'en Afrique, la réalité elle est différente, c'est d'être très ouvert, d'ouvrir les yeux, je veux dire, ouvrir les yeux. C'est-à-dire, si tu n'ouvres pas les yeux, quand tu vas en Afrique, tu peux te faire voler rapidement. D'ailleurs, dans tous les marchés du monde, d'ailleurs. Donc, j'ai appris à être très attentif. Je peux te dire que c'est être attentif, je veux sortir, être attentif. Je me rappelle que déjà à l'âge de 11 ans, j'attrapais déjà les petits les voleurs qui essayaient de... C'est-à-dire, c'était des acheteurs hein, qui essayaient de voler, de cacher des choses. Donc, j'étais très attentif. Donc, il faut être attentif dans la vie. Quand tu rentres dans un milieu ou quel que soit le milieu dans lequel tu es, il faut être attentif. Il y a le fait d'être attentif et ça, aujourd'hui, je continue de l'être. Quand je viens quelque part, j'essaie de sonder un peu tout ce qui m'entoure, de regarder, d'explorer et d'être attentif à tout ce qui m'entoure. Donc, c'est très important d'être attentif. La deuxième chose, c'est avoir la capacité de pouvoir s'adapter. La capacité de pouvoir s'adapter, pourquoi? J'avais des clients qui étaient des vieux. Okay, qui étaient des vieux, qui avaient l'âge de ma mère, l'âge de mon père. J'avais des clients qui étaient des jeunes. J'avais des clients qui étaient des femmes mariées. J'avais des clients qui étaient aussi des jeunes filles. J'avais tout type de clients. Et si tu ne sais pas t'adapter à ce type de clients, tu peux faire des bêtises. Parce que le vieux, tu ne vas pas le traiter comme un jeune. Parce que le vieux, quand il vient, il va falloir que tu le fasses asseoir. Tu dis, ah, papa, asseyez-vous. Vous voulez quelque chose. Il va falloir que tu changes ta façon de faire. Donc, ça m'a permis de développer ce skills-là, cette compétence-là, qui est d'être vraiment quelqu'un d'adaptatif, quel que soit le type de personne que j'ai en face de moi. OK? Et la dernière chose qui est la compétence ultime que tout être humain doit pouvoir développer et que j'ai pu garder comme leçon depuis ce jeune âge, parce qu'il y a eu plein de leçons, hein, mais ces leçons-là qui continuent de rester et de rester avec moi, c'est l'humilité. Cette humilité, je l'ai pris de ma mère d'une fois où j'étais là avec un client où j'étais en train de dire, mais pourquoi il fait ça et tout, je parlais. Et ma maman m'a tapé pour le client. C'est-à-dire, ma maman m'a frappé au détriment du client. Et elle me dit, oui. Et je dis, mais c'est le client. Elle dit, non. Même si c'est le client, tu lui dois le respect, tu lui dois d'être humble. Tu as le droit de rester comme ça. Et dans la vie, quelle que soit la personne en face de toi, n'oublie jamais d'être humble. Et cette humilité, il faut l'avoir dans tout ce qu'on fait dans la vie. Parce que c'est ça qui ouvre les portes, c'est ça qui fait les choses différemment, c'est ça qui te permet d'être en face de quelqu'un que tu t'imagines peut-être pas être le PDG d'une entreprise, mais qui finalement serait cette personne qui va t'aider. Ça peut être le gardien de, de l'entreprise, ça peut être n'importe qui. Donc j'ai gardé ces trois leçons avec moi et je pense qu'aujourd'hui, elles me sont très utiles.
Super, excellent. Débuter tôt, je pense que ça t'a bien servi dans ton parcours.
Absolument, absolument.
Puis maintenant, j'aimerais peut-être un peu plus savoir comment tu es passé de cette expérience-là, travailler dans les différents commerces et entreprises familiales, aux études qui t'ont mené vers la psychologie, puis éventuellement vers le neuromarketing.
Ouais, je m'attendais à ça, hein, naturellement, tout le monde pose cette question. Non, bizarrement, moi, je voulais être architecte. Plus jeune, je voulais être architecte. J'ai fait la série C. J'étais furieux de dessins, de plans. Je voulais être architecte, mais je me suis confronté à quelques petits soucis au niveau scolaire. Parce que je me rappelle que la série C n'était pas une série très développée, en tout cas au Bénin, chez moi, à cette époque-là, vers les années 2006-2005. Il n'y avait pas beaucoup d'écoles d'ailleurs qui avaient la série C, ce qui faisait que même quand j'ai fait la seconde et la première C, on était à peine 4 ou 3 dans la classe. Et je me rappelle quand je passais en terminale C, l'école que je faisais n'avait même pas de terminale C. Donc, il fallait que je change d'école et tout ça. Et tout cela m'a fait perdre, au fait, cette envie-là. Et de l'autre côté, il y avait ma mère qui m'a aussi dit, « Ah, l'architecture, je connais des gens, mais l'architecture, c'est cher. Je connais un enfant de quelqu'un qui a fait l'architecture, mais c'est cher et tout ça. » Donc, tout ça m'a fait réfléchir. Alors, et mes sœurs dans la famille m'ont dit, moi j'ai fait la D, toi si tu peux faire, moi j'ai fait la G2, fais la D, au moins après la D, tu as plus de sorties. Bref, en gros, je n'ai plus suivi ce rêve-là d'être architecte quand j'étais plus jeune. Et j'ai dit, bon, je vais suivre quelque chose par laquelle je suis passionné. Déjà que je suis déjà dans la vente depuis plus jeune et j'adorais l'anglais. Je voulais faire du business, du business administration. Être dans un cours un peu anglais et tout. Donc, j'ai commencé d'abord avec l'anglais à l'université publique. Mm-hmm. Et après un an, mes frères et mes soeurs m'ont dit, bon, tu vas faire l'anglais au Bénin et tout. Bon, c'est pas très la bonne idée. Essaie de faire quand même une autre formation qui va te permettre d'avoir quand même d'autres acquis. Et c'est là que je suis allé vers le marketing et l'action commerciale. Donc, j'ai fait 3 ans BTS. J'ai fait une licence également en marketing et action communication. Donc, ce qui m'a fait marketing action commerciale d'abord, après marketing et communication, ce qui m'a permis au fait d'aller vers le marketing. Parce que la vente et le marketing, bon, on peut dire que le marketing, dans le marketing, il y a la vente. Et comme j'étais déjà un peu rodé dans la vente, ça a été plus facile pour moi de suivre ces cours de marketing qui m'ont permis après, d'ailleurs, de m'intéresser un peu plus à la psychologie.
D'accord.
Et je ne sais pas si ça me permet de répondre même pas à ta question. Et la psychologie est venue à quel moment ? J'avais déjà quitté l'université, je pense qu'en 2016-2015, je finissais déjà à l'université. Et en ce moment-là, disons, ça fait 8 ans maintenant, quand j'ai quitté et j'étais dans la vie active, je me suis rendu compte au fait qu'il y avait quelque chose qui était différent chez les clients. Il y avait quelque chose qui faisait que je vendais le même produit à celui-là. Peut-être je vendais le même produit à Jean-Philippe et quelqu'un à côté de toi, mais je n'arrivais pas à lui vendre le produit. Je me dis, mais pourquoi ? Alors qu'il a le même besoin que toi. Donc, j'ai commencé à réfléchir dans ma tête, j'ai commencé à chercher. Et c'est là que je suis tombé sur la psychologie, comprendre comment on pouvait, juste avec les facteurs qui étaient dans notre cerveau, on pouvait activer un client à acheter, comment les grandes entreprises ont utilisé cette psychologie aujourd'hui pour nous vendre. Oh, mon temps pour moi.
Voilà. Pas de souci. Tu pourras reprendre où est-ce que tu étais.
Je vais recommencer là où j'étais.
Oui, vas-y.
Je disais, comment les grandes entreprises ont fait pour utiliser la psychologie pour nous vendre pendant plusieurs années. Et là, c'est là que je suis tombé sur des articles sur la psychologie et un peu plus, en allant un peu plus sur LinkedIn, puisque j'étais déjà connecté sur LinkedIn, j'ai commencé à lire des posts, des personnes qui étaient sur LinkedIn qui parlaient de psychologie, de neurosciences et tout. Et bim, j'ai compris le déclic entre la psychologie et la vente. J'ai compris que tu pouvais influer sur les décisions d'achat des clients à travers la psychologie. Et c'est là que j'ai commencé à travailler et maîtriser un peu plus la psychologie pour allier ça à la vente que je connaissais déjà depuis tout petit et au marketing que j'ai appris à l'école.
D'accord. Et par rapport à la psychologie, est-ce qu'il y a des approches en particulier qui t'ont marqué ou des auteurs ou des penseurs dans ce domaine-là qui t'ont influencé puis qui ont marqué tes connaissances et ton parcours dans le domaine de la neuro du neuromarketing, excuse-moi.
Ouais, je merci pour cette question. Je pense qu'il y a Daniel Kahneman qui est l'un des précurseurs. C'est un professeur en économie, mais qui est particulièrement, il a d'ailleurs eu un prix Nobel en économie pour ce qu'il a pu faire, ce qu'il a pu faire dans le domaine du neuromarketing et de la psychologie. Et au fait, aujourd'hui, ce que j'ai appris de lui, j'ai beaucoup appris de lui parce qu'il a, eu à faire sortir beaucoup de bouquins, beaucoup de notions dans la psychologie, ce qui a fait que cela m'a permis de plus m'intéresser à d'autres auteurs. Après, j'ai connu Jeb Blount qui a fait sortir un livre fabuleux qui est People by You. OK, People by You, c'est un livre sur la psychologie qui est quelque chose d'extraordinaire, qui montre au fait comment les gens au fait achètent dans le monde, que les gens n'achètent pas un produit, ils achètent la personne. Mm-hmm. Après, j'ai également pu lire Brian Tracy, qui est un pionnier de la psychologie, qui a fait sortir un livre. Je pense que Brian Tracy, l'un de ses livres que j'affectionne beaucoup, c'est The Psychology of Selling. The Psychology of Selling, la psychologie de la vente. Donc, il y a plein de livres. Hein. J'ai lu une cinquantaine de livres sur la psychologie. Donc, autant pour moi. Donc, aujourd'hui, je pense que la psychologie est quelque chose qu'on continue d'apprendre au quotidien. Ce n'est pas des acquis qu'on a et on se dit, bon, je connais déjà et c'est bon, parce que ça évolue. L'être humain évolue. Et plus tu es en train de côtoyer des êtres humains, plus tu seras en train de développer ta psychologie, de développer la psychologie autour des êtres humains. Voilà.
Excellent. Puis, maintenant, j'aimerais qu'on puisse peut-être parler un peu justement de neuromarketing. Mm-hmm. Je pense que c'est un terme qui est plus ou moins familier pour la majorité des gens. Donc, ouais. Comment pourrais-tu résumer puis expliquer simplement le concept à quelqu'un qui serait nouvellement initié au neuromarketing?
OK, super. Bon, à tous nos auditeurs, je vais faire un petit jeu. Quand vous réveillez le matin, okay, oui, quelque chose vous dit, qu'est-ce que vous dit? Faut porter cet habit, faut porter cette chemise, faut porter cette robe, et prendre cette couleur, mettre cette chaussure. Et vous vous habillez comme ça, vous sortez. Quand vous regardez après, quand vous voulez vous faire une introspection, vous vous demandez, qu'est-ce qui fait que je porte ceci? Soit ça sera un facteur lié au travail, soit ça sera un facteur lié à votre environnement direct. Ça veut dire peut-être parce que vous avez vu quelqu'un porter la couleur bleue hier, ou parce que vous avez vu la couleur bleue à la télé, ou soit parce que dans votre environnement direct, quelqu'un a influencé cette décision de porter ce que vous avez porté. C'est toujours comme ça. Souvent, on ne se rend pas compte, mais quand on fait de l'introspection, on se rend compte, ouais, c'est vrai. Par exemple, si vous êtes trop exposé à une couleur donnée dans une journée et vous rentrez la nuit, le lendemain, quand vous réveillez, cette couleur va rester dans votre tête. Vous aurez l'impression que tant que vous n'avez pas peut-être interagi avec cette couleur-là, vous n'avez pas encore fait ce qu'il faut faire. Et c'est comme ça que le neuromarketing fonctionne en fait. Le neuromarketing utilise nos cinq sens pour pouvoir influencer nos décisions quotidiennes. Donc, si tu ne veux pas parler de neuromarketing, et tu veux juste comprendre comment le concept de neuromarketing fonctionne, il suffit juste de te dire comment je peux influencer les cinq sens que j'ai. Les cinq sens qu'on a, on a la vue, on a l'ouïe, on a le goût, on a l'odorat et le toucher. Et avec le neuromarketing, vous avez la capacité de toucher ces cinq sens et que ces cinq sens influencent directement notre décision ou influencent nos décisions journalier au quotidien. Ça, c'est clair. Et donc, pour comprendre le neuromarketing, c'est simple. Il suffit de comprendre comment on peut influencer ces cinq sens. Comment je peux influencer quelqu'un, par exemple, si je veux vendre un parfum avec l'odorat, par exemple, en mettant ce parfum à un certain endroit, quand il vient, il sent, ah, ça sent bon ici. Il va s'arrêter. D'ailleurs, les boulangeries l'utilisent très bien. Oui. Quand tu arrives dans une boulangerie, en même temps, tu sens l'odeur du blé, tu sens de la pâte et tout. Tu as envie de prendre, de manger un croissant. Tout ça, c'est ça, en fait, le neuromarketing déjà. C'est tout. Ce n'est pas quelque chose de sorcier. Quand tu arrives à un endroit comme, je vais dire, Disney, où tu arrives à un endroit vraiment très beau, qui est glamour et tout, tu verras les couleurs. que les gens présentent, les couleurs qu'ils vont présenter vont t'attirer, vont te dire waouh, c'est très beau, tu vas rester, tu vas vouloir apprendre un peu, tu vas vouloir passer plus de temps, ainsi de suite. C'est comme ça, quand tu touches une matière, on a l'habitude de se dire, quand tu touches un produit, tu touches la matière, tu vois que la matière elle est beaucoup plus soft, plus douce, on se dit ça c'est de la bonne qualité. C'est faux. En réalité, le toucher et ce sentiment de toucher quelque chose de doux, c'est parce que dans notre cerveau, c'est déjà intégré dans notre cerveau que quelque chose de doux est quelque chose de bien. Mm-hmm. Ce n'est pas forcément le cas.
Donc,
le neuromarketing est en réalité tout ce qu'on fait au quotidien, ok, qui influence nos décisions, simplement.
Excellent. Je pense que ça a été très, justement très imagé comme façon de présenter le neuromarketing, avec des exemples, que ce soit avec la vue, l'odorat, quand on rentre dans une boulangerie. Pour moi, je peux même sentir les effluves dans la boulangerie en t'écoutant. Donc,
alors, c'était l'extrait de l'émission de l'entrevue avec Ajmal Adjassa. Si vous voulez écouter la suite, je vous invite à le faire sur la rediffusion du Soul Leader Podcast. Alors, l'émission tire à sa fin. On va bientôt faire la place à la prochaine équipe. C'était Jean-Philippe Vézina. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Rendez-vous dans 2 semaines, mercredi, le 21 février. On va parler à ce moment-là de langue africaine. C'était Jean-Philippe Vézina sur les ondes de CKUT 90.3 FM. À très bientôt.
What's going on, y'all? It's your girl, Miss Ben, and it's Black History Month. So you know we'll be kicking it every Tuesday right here on CKUT 90.3 FM. Every Tuesday from 3 to 5, I bring to you Heal, Black Girl Heal, where we discuss some in-depth conversations with those that got some things going on within the Black community. And let's not forget about all of the plentiful activities that you need to keep up to date with. So do not forget, each and every Tuesday for the month of February, right here on CKUT 90.3 FM.
Tu t'es occupé de ton ami qui saignait du nez après qu'il soit rentré dans une